Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bien, nous allons reprendre cette semaine le livre de contes Sponville, Dictionnaire amoureux de Montaigne. On ne va pas, bien sûr, prendre toutes les lettres alphabétiques. Et dans l'avant-propos, il y a un texte, ma foi, qui explique un petit peu la genèse de ce livre. Ce dictionnaire était presque achevé lorsqu'il est advenu la pandémie de Covid-19 qui ébranla le monde. Pas étonnant que ce fussent des phrases de Montaigne lorsque les journalistes m'interrogeaient qui me vinssent spontanément. Plusieurs lecteurs qui les découvraient grâce à moi dans leur journal habituel me remercièrent, qui s'étonnaient de leur profonde et même temps de leur actualité. Montaigne si volontiers intempestif et pour cela de tous les temps, sur l'histoire en train de se faire, sur les nécessités de l'action, sur la mort, sur la maladie, sur les épidémies même. Mais comme il s'est gardé son indépendance d'esprit, comme il se tient à l'écart de tous les groupes, y compris ceux dont il fait partie, comme il résiste à toutes les pressions sociales, à tous les emportements, et quelle force il en tire, et comme il nous aide dans un monde si différent du sien à penser et à vivre. Alors, on va bien sûr pas prendre ce que je disais, toutes les lettres alphabétiques comme un dictionnaire. Mais on va voir un peu l'apologie, on est dans les lettres A, l'apologie de Raymond Sebon. Alors, ça tient une place importante quand même dans les mémoires. Alors peut-être le plus célèbre des essais de Montaigne, c'est vraiment le plus long, de très loin, sixième de l'ensemble, point l'un de ceux que je préfère, trop de pensées empruntées le plus souvent aux anciens, notamment aux hypothéposes pyrénéennes de Sextus Empiricus, pas facile à dire, trop de scepticisme, trop de systématique, trop de méfiance vis-à-vis de la raison, de la crédulité vis-à-vis des témoignages, trop d'arguments discutables, de relativisme, parfois outrancier, de fidéisme affiché, et surtout de peu de ce que fera de charme sans égal du livre 3 qui est Montaigne en personne, comme homme et comme penseur, tel qu'en lui-même, enfin, l'écriture l'aura fait advenir. L'apologie n'en reste pas moins un texte majeur d'une considérable portée historique. Les libertins feront leur miel, et philosophique ou les pépites, quoique dans une gangue quelque peu diffuse, sont innombrables, et dont le dernier tiers, les pages 577 à 604 dans l'édition Villeret, sont à lire absolument. Alors Raymond Sebon, de son vrai nom Ramon Subiuda, est catalan. Il est né à Barcelone vers 1385 et il est mort à Toulouse le 26 avril 1436. Alors, c'est un médecin, théologien et philosophe catalan, et il écrivait en latin. Alors Raymond Sebon est surtout connu par sa théologie naturelle, écrite en 1436 et rééditée en 1486. Elle fut ensuite traduite et éditée en français par Montaigne entre 1568 et 1569. Voilà, alors donc, on va laisser Raymond Sebon, et on va arriver, bien sûr, à Étienne de la Boétie. Alors, Étienne de la Boétie, c'est un écrivain humaniste et poète, un juriste français, né le 1er novembre 1530 à Sarlat, donc un contemporain, et mort le 18 août 1563 à Taillamédoc, près de Bordeaux. Alors, la Boétie est célèbre, bien sûr, pour son discours de servitude volontaire, et à partir de 1540, 58, il devient l'ami intime de Montaigne, qui lui rend hommage posthume dans ses essais. Leur amitié sera étudiée par de nombreux historiens intellectuels, et deux hommes correspondent régulièrement par voie épistolaire jusqu'à la mort de la Boétie. Alors, bien sûr, il y a des textes qui collent à la peau, si je puis dire, de la Boétie. Il y a au-delà de tout mon discours, de ce que j'en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale et médiatrice de cette union, nous nous cherchions avant de nous être vus et par des rapports que nous aurions l'un de l'autre, qui faisait notre affection plus d'effort que je ne porte la raison, des rapports plus effets que selon la raison, ces rapports n'eussent faire. Je crois que par quelque ordonnance du ciel, nous embrassions par nos noms. Notre première rencontre, qui fut par hasard, dans une grande fête et compagnie de ville, nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous que rien dès lors ne fut si proche que l'un à l'autre. Voilà, ils étaient tous les deux conseillers au Parlement de Bordeaux. Donc c'était logique qu'un jour ils se rencontrent. Alors, il y a une suite à tout ça, ayant si peu à durer, ayant si tard commencé notre amitié, n'était point à perdre de temps et à régler au patron des amitiés molles et régulières, auxquelles il faut tant de précautions, de longues préalables conversations. Celle-ci n'a point d'autre idée que d'elle-même et ne peut supporter qu'à soi. Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille. C'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qu'ayant saisi toute ma volonté, l'amena à plonger et de perdre dans la sienne. D'une fin d'une concurrence pareille, je dis perdre à la vérité, ne réservant rien qui fût propre, ni qui fût ou sien ou mien. Voilà. Alors, ça, si vous lisez les essais de Montaigne, c'est page 188 et 189. Voilà. Alors, on va laisser Étienne de la Boétie, bien sûr. Alors, le contrat, bien sûr, sera publié dans les essais, et Montaigne, donc, le fera connaître. Alors, il y a une troisième personne qui est Marie de Gournay. Alors, Marie de Gournay, c'est une femme de lettres française, peut-être moins connue, femme de lettres française de l'époque moderne. Marie de Gournay, alors elle est née en 1565 et elle décède en 1645. Fréquente les érudits de son temps et travaille notamment en correction des essais de Montaigne, tout en poursuivant ses propres écrits. Alors, elle est née à Paris en 1565, comme je disais, au sein d'une famille aisée. Marie de Jarre est l'aînée de six enfants, de Jeanne de Acqueville et de Guillaume Le Jarre. Elle tire son nom de Gournay, du château et de la seigneurie acquis par son père à Gournay sur Aronde, en Picardie, quelques années avant sa mort, qui se proviendra en 1578. Alors, Marie est élevée de manière traditionnelle pour une jeune fille de bonne famille de l'époque, mais elle-même n'entend pas se contenter de cette éducation. En lisant des ouvrages en texte original et en traduction, elle apprend toute seule le latin et le grec. Elle s'intéresse également aux sciences, aux lettres, à la philosophie. Elle commence à écrire elle-même, elle ambitionne alors déjà de renoncer au mariage et de vivre de sa plume. Alors, Jeanne de Acqueville meurt en 1591 et Marie s'installe à Paris, laissant le château à son frère Charles. Alors Montaigne meurt en 1592 et sa veuve fait parvenir à Marie une copie annotée des essais en lui demandant de les publier, reprenant les corrections et préfaçant le texte. Voilà, alors, donc ses écrits posthumes en 1595, tout en travaillant bien sûr ses propres écrits. Alors, à la capitale, Marie de Gournay fréquente les érudits et se construit un réseau de protecteurs à la cour, en offrant sa plume à Marguerite de Valois, Henri IV, Marie de Médicis ou encore Louis XIII. Célibataire, elle se sied à ses besoins toute seule, touchant une pension royale. Elle parvient à publier ses œuvres, parmi lesquelles des poèmes, des traductions, et elle traduira Ovide, Virgile et Tacite. C'est des adaptations des critiques féministes, elle publie en 1622, Égalité entre les hommes. C'était bien sûr pour l'époque quand même assez nouveau. Et en 1626, Les femmes et griefs des dames. Elle y prône l'égalité absolue entre les sexes. Comme beaucoup de femmes indépendantes de son temps, elle affronte rumeurs, calomnies personnellement, comme pour ses œuvres. Alors, Marie de Gournay meurt à Paris le 13 juillet 1645, à l'âge de 79 ans. Voilà. Et elle a écrit toute sa vie, c'était quand même une femme indépendante. Voici ce qui est dit d'elle. Alors, environ les 18 et 19 ans, cette fille lut les essais par hasard. Et bien qu'ils fussent nouveaux et sans nulle réputation encore, elle, qui put guider son jugement, elle les mit non seulement à leur juste prix, très fort, difficile, et faire en tel âge et en un siècle si peu suspect de porter tel fruit. Mais elle commença de désirer la connaissance, communion et bienveillance de leur auteur, plus que toute chose au monde. Alors voilà donc la situation. Alors, elle rencontrera donc Montaigne quelques années plus tard à Paris, en 1588. Elle avait 23 ans et lui 45. Elle recevra quelques semaines ou quelques mois ou plusieurs voyages au château de Gournay en Picardie, qui eut-il entre eux rien de sexuel, semble-t-il, ni même d'amoureux, juste une amitié quasi filiale d'un côté plus que paternelle de l'autre. Il l'appelle « ma fille d'alliance », faite d'admiration surtout chez elle et d'émotion surtout chez lui. Cela durera jusqu'à la mort de Montaigne, 4 ans, seulement après leur rencontre, mais le souvenir ébloui n'en cessera d'accompagner Marie de Gournay, laquelle ne mourra qu'en 1645. Dans sa 80e année, comme on l'a dit, de Montaigne dans la même préface sera évoqué, elle le dit joliment justement, ses compagnons et philosophes qu'il cite enseignent la sagesse, ils désenseignent la sottise, c'est ce que Montaigne, dit-elle, voici. Alors, donc, il y a une citation, que je vais dire. J'ai pris plaisir à publier en plusieurs lieux l'espérance que j'ai de Marie de Gournay, le jarre, ma fille d'alliance, et cette aimée de moi beaucoup plus que paternellement, et enveloppe en ma retraite et solitude comme l'une des meilleures parties de mon propre être. Je ne regarde plus qu'elle au monde. Si l'adolescence peut donner présage à cette dame, sera quelque jour capable de belles choses, et entre autres à la perfection de cette très sainte amitié, où nous ne lisons point que son sexe ait pu montrer encore la sincérité, et la solitude de ses mœurs sont déjà bastantes, c'est-à-dire, autrement dit, suffisantes. Son affection vers moi, plus que surabondante, le jugement qu'elle fit des premiers essais, et femme en ce siècle et si jeune, seule en son quartier, et la véhémence fameuse dont elle m'aima et me désira longtemps, sur la seule estime qu'elle a pris de moi avant de m'avoir vu dans un accident de très digne considération. Voilà. Voilà donc ce qui est dit. Bon, on peut continuer un petit peu. Après la mort de Montaigne, elle se fera femme de lettres, donc comme on l'a dit, écrivant sur toutes sortes de sujets, notamment littéraires. Elle défend Rosser contre Malherbe, moraux ou pédagogique. L'une de nos premières féministes, elle publie Égalité des hommes et des femmes, puis Grief des dames. Aujourd'hui, heureusement disponible en format de poche et dans une langue modernisée. On imagine aller lire ce qu'il lui fallut de courage, de colibé qu'elle sut affronter. Citons-en en guise d'hommage cette petite page de Grief. Alors, bienheureux es-tu, lecteur, si tu n'es point de ce sexe qu'on interdit de tous les biens, le privant de liberté, ou même qu'on interdit encore à peu près de toutes les vertus, lui soustrayant les charges, les offices et fonctions publiques, en un mot, lui retranchant le pouvoir à la modération duquel la plupart des vertus se forment avant de constituer pour seule félicité, pour vertu souveraine, et seule l'ignorance à servitude et la faculté de faire le sot, si ce jeu lui plaît, bienheureux de rechef qui peut être sage, sans crime, ta qualité d'homme, de conquérant, autant qu'on les défend aux femmes, toute action de haut dessein, tout jugement sublime, et toute parole de spéculation exquise. Mais afin de taire pour ce coup les autres griefs de ce sexe, et quelle injustice façon est-il ordinairement traité, je vous jure, aux conférences, donc les conférences sont des débats, autant qu'il s'y mêle. Et puis, si peu ou pour me dire fort glorieusement, je ne crains pas d'avouer, je le sais que ma propre expérience, des dames, des raisons et des méditations de Carnéade, il y a eu si chétif que les rambards et les approbations que la plupart des assistants, quand un sourire seulement ou quelques petits branlements de tête, son éloquence muette, aura dit « c'est une femme qui parle ». Voilà, leur digne élève de Montaigne est plus féministe que l'entrée et d'autant plus digne de son maître. Sur ce point, elle le dépasse. Voilà, alors je vais arrêter là. Mon temps, je crois, est écoulé. Donc je vous souhaite une bonne semaine sans trop de pluie. Et à très bientôt, donc à lundi prochain.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.